Bonjour, bienvenue sur Globule Radio. Aujourd'hui, l'émission vous sera présentée en direct du studio par Eden, Inès, Louise et Enzo, élèves de 4e A du collège Jeanne d'Arc à Chamonix. Nous sommes ici dans le cadre d'un projet scolaire avec Globule Radio effectué sur toute l'année. Alors moi c'est Inès, j'ai 13 ans et dans la vie, les choses que j'aime sont la gymnastique, la natation, la lecture, mais j'ai aussi peur de certaines choses comme des fonds marins ou encore des araignées. Je sais que j'aimerais notamment voyager en Grèce et en Suède.
Salut, je m'appelle Louise et j'ai 13 ans. Une cause qui me tient énormément à cœur est la protection animale. Et je soutiens la SPA. J'adore la gymnastique, la danse, la poterie, le dessin et la pâtisserie. D'ailleurs, plus tard, j'aimerais être pâtissière.
Je m'appelle Enzo, j'ai 14 ans et je viens de Nouvelle-Zélande. J'aime tous les sports de la montagne, c'est-à-dire le ski, le trail running, le randonnée et l'escalade. J'aime aussi dessiner. Je suis passionnée de l'écologie et j'aime protéger l'environnement. J'adore voyager et j'ai déjà visité plus de 20 pays.
Salut, moi c'est Eden. J'ai 13 ans, mes passions sont la poterie, le dessin, la danse et voyager. En parlant de voyage, j'aimerais bien visiter la Corée du Sud et le Canada. Plus tard, je voudrais être journaliste car c'est un univers qui me passionne.
Maintenant, nous allons écouter Beautiful Things de Benson Boone.
For a while there it was rough, but lately I've been doing better than the last four cold Decembers I recall. And I see my family every month. I found a girl my parents love. She'll come and stay the night, and I think I might have it all. And I thank God every day for the girl he sent my way. But I know the things he gives me, he can take away. And I hold you every night, and that's a feeling I wanna get used to. But there's no man as terrified as the man who stands to lose you. Oh, I hope I don't lose you. Please stay. I want you, I need you, oh God. Don't take these beautiful things that I've got. Please stay. I want you, I need you, oh God. Don't take these beautiful things that I've got. I found my mind, I'm feeling sane. It's been a while, but I'm finding my faith. If everything's good and it's great, why do I sit and wait till it's gone? Oh, I tell you, I know I've got enough. I've got peace and I've got love. But I'm up at night thinking I just might lose it all. I want you, I need you, oh God. I need these beautiful things that I've got.
Aujourd'hui, le thème principal de notre émission est la biodiversité que nous étudierons sous plusieurs angles. Dans un premier temps, Enzo nous fera part de sa chronique personnelle sur l'histoire de l'aiguille du Midi. Par la suite, je vous présenterai une interview de Sébastien Perrier sur les plantes sauvages comestibles. Puis Eden nous lira sa chronique personnelle sur l'impact du stress sur la santé. Ensuite, Enzo nous présentera son micro-trottoir sur les dangers pour les animaux de la montagne. Après ça, Louise nous partagera sa chronique sur le véganisme, le végétalisme et le végétarianisme, qui sera suivie de ma chronique sur l'exploitation des Ouïghours. Et pour finir, Eden et Louise nous présenteront un reportage sur le retour des loups. Eh bien Enzo, nous te laissons présenter ta chronique personnelle à présent.
En seulement 20 minutes, le téléphérique de l'Aiguille du Midi vous transporte de Chamonix au point de vue le plus spectaculaire du Mont Blanc à 3842 mètres d'altitude. Mais connaissez-vous l'histoire intéressante de la construction de ce téléphérique ?
Non, je ne sais pas. Quand commence l'histoire ?
L'histoire commence en 1904, quand deux ingénieurs, William Feldman et Emil Straub, imaginent relier Chamonix à l'Aiguille du Midi par deux sections de funiculaire aérien. Le mot téléphérique n'existait pas encore. La construction a commencé en 1909, mais a été suspendue pendant la Première Guerre mondiale. En 1923, la construction recommence et le premier tronçon est inauguré en 1924. Il relie les Pèlerins à la Para à 1690 mètres. C'est le premier téléphérique voyageur en France. Le deuxième tronçon est achevé en 1927 et se termine à 2404 mètres d'altitude. Cependant, avec l'explosion de la Deuxième Guerre mondiale et l'ouverture du téléphérique de Plan-Bras au Brevent, le téléphérique ferme ses portes en 1951 en raison de sa faible popularité.
Mais ce n'est évidemment pas la fin de l'histoire. Alors, qui a relancé le projet ?
C'est le promoteur italien Dino Laura Totino qui a relancé le projet en empruntant le parcours plus direct tracé par Marcel Auvert. Le nouveau téléphérique n'est pas seulement une rénovation de l'ancien téléphérique, mais il a été construit de nouveau, selon le plan esquissé par Auvert. Cependant, l'ancienne ligne de téléphérique servait encore à transporter de nombreux matériaux vers les chantiers de construction des pylônes situés plus haut sur la montagne. La première moitié du nouveau téléphérique est achevée en 1954, reliant Chamonix au plan d'Aiguille. La seconde moitié, reliant le plan d'Aiguille à l'Aiguille du Midi, est achevée en 1955, reliant enfin le fond de la vallée à ce sommet étonnant.
Mais comment ont-ils pu tracer le deuxième tronçon sans hélicoptère ?
Le câble porteur, pesant 60 tonnes, a été élevé au sommet par des gens. Les matériaux pour les pylônes ont été amenés au site de construction. Le téléphérique de l'Aiguille du Midi a eu une grande rénovation en 1991 et depuis les années 2000, c'est géré par la Compagnie de Mont-Blanc.
L'Aiguille du Midi est un des sites les plus spectaculaires des Alpes et son histoire est tout aussi étonnante. Merci de nous en parler.
Merci Enzo, c'était très intéressant. Et tout de suite, nous allons écouter Mon amour de Slimane.
Mon amour, dis-moi à quoi tu penses. Si tout ça a sens, désolé si je te dérange. Mon amour, te souviens-tu de nous, du premier rendez-vous? C'était beau, c'était fou. Je t'aime, je sais pas pourquoi. Je rejoue la scène. C'est toujours la même fin qui recommence. Tu n'entends pas ma peine. On en fait quoi? Est-ce que tu m'aimes ou pas? Mon amour, je ferai tout ce que je peux. Un océan dans le feu, l'impossible si tu le veux.
tendre.
Alors Inès, peux-tu nous apprendre plus sur la flore sauvage ?
Le savez-vous, il y a plus de 6000 espèces de plantes sauvages et 80% d'entre elles sont comestibles. D'ailleurs, de nombreux cuisiniers et spécialistes de la flore les utilisent en cuisine. Mais elles sont aussi utilisées dans un cadre médicinal car certaines ont des propriétés particulièrement bénéfiques pour la santé. C'est pour cela qu'à Chamonix, les plantes comestibles sont très exploitées. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Sébastien Perrier, un accompagnateur de montagne et passionné des plantes. Je lui ai posé des questions sur sa passion et il m'a répondu. Ma première question a été, pourquoi utilisez-vous les plantes sauvages ?
Bonjour Inès. Alors pourquoi j'utilise les plantes sauvages ? Pour pas mal de raisons en fait. Déjà, je les trouve belles. Bien aussi toute la palette d'odeurs que ça va m'apporter, toutes les saveurs que ça va m'apporter. Cueillir, passer du temps dans différents milieux. C'est à chaque fois des moments privilégiés.
Et d'après vous, en quelle saison est-il préférable d'aller les cueillir ?
Il y a vraiment plusieurs saisons de cueillette différentes. Mais tout au long de l'année, en fait, on peut cueillir différents types de plantes. Par exemple, au printemps, on va avoir pissenlit, que tout le monde connaît, qui sont vraiment toutes ces petites jeunes pousses là qui commencent à pointer après la fonte des neiges. On a l'épinard sauvage. Outre le pissenlit, les fleurs de pissenlit aussi, qu'on peut cueillir pour faire de la confiture. Donc ça, c'est le petit panel pour le printemps. Mais après l'été, on va avoir aussi des fleurs qui sont à la fois jolies et en plus bonnes d'un point de vue comestible, si on reste sur le point de vue comestible, comme les achillées qui font des belles fleurs blanches. Pour toutes les saisons, on a les fruits plutôt à l'automne aussi qui vont être intéressants. Fin d'été, donc les myrtilles que tout le monde connaît. Les cynorhodons, fruits rouges en fait qui poussent sur les rosiers sauvages. Et même l'hiver, on peut faire aussi plein de choses avec notamment les sapins, les épicéas, les lichens même. Donc il y a plein de saisons en fait pour les plantes. Et après, c'est les saisons privilégiées, c'est souvent le printemps. Ouais. Parce que là, c'est le moment où on a envie en plus de se faire des salades là, après un long hiver à manger des raclettes.
D'accord, merci. Et où peut-on les trouver ?
Où peut-on les trouver ? Ça fait un peu écho à ce qu'on disait par rapport à la biodiversité. Il y a vraiment plein de milieux différents avec des plantes spécifiques dans différents milieux. On va avoir les sous-bois, donc toutes les plantes qu'on va pouvoir trouver en forêt. Dans les sous-bois, il y a une plante notamment qui est très belle et qui a un parfum exquis, c'est l'aspérule odorante, qui fait des petits bouquets de fleurs blanches et qui a une odeur un peu vanillé, un peu foin. Le sous-bois, c'est vraiment... Il y a même différents types de forêts, mais il y a la forêt d'épicéas un peu acide. Tu vas avoir une forêt plus bas en altitude de hêtres et de chênes, où tu vas avoir aussi d'autres espèces. Tu peux avoir bord de lac, une zone humide, où tu vas retrouver d'autres types de plantes. Tu as aussi autour des fermes, autour des maisons, où tu vas retrouver des plantes, je suis sûr, que vous avez déjà vues, comme les orties. Il y a vraiment plein de milieux différents où on va avoir des interactions, pas que entre les plantes d'ailleurs, mais entre la plante et le sol, via les racines avec des champignons, des bactéries, via aussi les insectes qui vont polliniser les plantes, mais aussi ces insectes qui vont attirer certains types d'araignées, qui vont aussi attirer certains oiseaux. Les haies, c'est un super endroit aussi pour trouver pas mal de plantes. Les prunelles, les cynorhodons, on va les retrouver aussi par là. Donc, il y a plein de différents milieux avec plein de plantes et qui interagissent entre eux. On parle de mosaïque de paysage, des fois. Tous ces milieux, et même les milieux humains, ont un intérêt pour les plantes. On va pouvoir trouver vraiment des plantes qu'on va utiliser dans tous ces milieux-là. Et c'est important aussi de noter que l'homme peut aussi créer ce type de milieu, notamment les haies, des prairies, des pâturages pour les bêtes. Et on va trouver des plantes inféodées à chacun de ces milieux-là. Donc la biodiversité, c'est vraiment, au niveau des plantes, ça va regrouper tous ces milieux-là, avec toutes les plantes et tous les animaux qui interagissent dans ces milieux.
D'accord. Et vous, utilisez-vous quelque chose de spécial pour les cueillir ?
Alors, pour les cueillir, on va dire que les plantes, il y en a qui sont plus sensibles que d'autres. Typiquement, il faut toujours faire attention, quand on les cueille, à ne pas les arracher, à ne pas arracher la racine. Donc, il y en a qui vont être faiblement ancrés au sol. Donc, l'idéal, c'est d'avoir une petite serpette ou un petit ciseau pour prélever en fait ce dont on a besoin. Si on n'a rien, il faut faire attention. Il y a une petite technique avec le pouce et l'index. Voilà, un petit sachet Kraft pour mettre ou un sac en tissu pour mettre ce qu'on a cueilli dedans. Ça, c'est vraiment les outils pour la cueillette. Et puis après, pendant la cueillette, toujours faire attention à pas, entre guillemets, détériorer, abîmer l'endroit où on va cueillir. C'est aussi d'ailleurs de notre intérêt, parce que si on consomme ces plantes-là, on n'a pas intérêt à polluer ces endroits-là. Et à toujours laisser aller quasi la moitié, en fait, de l'espèce sur place, c'est-à-dire pas détériorer toute une station de plantes. Et en laisser toujours, parce que on n'est pas tout seul. Et les plantes, elles sont aussi... voilà, elles servent, les insectes vont être friands du pollen, d'autres, par exemple les cervidés vont consommer aussi ces plantes, et même d'autres humains vont consommer aussi ces plantes. Bref, toujours dire que c'est comme un jardin partagé, quoi.
D'accord. Et avez-vous remarqué un impact sur les plantes à cause du réchauffement climatique? Et sinon, pensez-vous qu'il aura un impact dans le futur?
Alors l'impact, les impacts qu'on peut remarquer par rapport au réchauffement climatique, c'est notamment en forêt, dans toutes ces forêts d'épicéa qu'on voit dans la vallée de Chamonix. Je ne sais pas si vous avez fait attention, on a quand même beaucoup d'épicéa qui sont détériorés, avec une écorce qui s'enlève, avec comme des traces de larves là, en surface, beaucoup d'arbres qui tombent. Il y a des phénomènes de sécheresse de plus en plus récurrents qui affaiblissent certains arbres, qui vont changer sûrement à terme le milieu, c'est en cours. Le voir de mes propres yeux, on voit ce changement qui opère petit à petit, mais typiquement on sait qu'il y a des espèces comme le hêtre qui devraient remplacer l'épicéa en dessous d'une certaine latitude d'ici quelques décennies, voilà, parce que le sol va changer, tout va changer. Voilà ce que pour l'instant, en tout cas moi, je peux voir à ma petite échelle.
Pensez-vous que la flore de Chamonix est susceptible de disparaître un jour?
Non, je pense pas, non, que la flore va disparaître. Je pense que s'il y a quelqu'un ou une espèce qui pourrait disparaître, ce serait plus l'espèce humaine qui disparaîtrait avant les plantes. Les plantes, elles étaient là bien avant nous. Les premières algues, je crois que c'était 1,5 milliard d'années. Les premières espèces type plantes à spores, comme les fougères, c'était il y a peut-être 150 millions d'années. Et les premiers hommes, on est apparus, nous, il y a 7 millions d'années. Et si on parle de l'Homo sapiens, c'est même 300 000 ans seulement. Donc je pense que, on serait peut-être les plus aptes à disparaître, mais les plantes, je pense qu'elles nous survivront, elles s'adapteront.
D'accord. Y a-t-il des plantes protégées? Et si oui, pouvez-vous nous dire lesquelles?
Waouh, il y en a beaucoup, des plantes protégées. Les plantes, en fait, elles ont différents niveaux de protection. Elles vont être des fois protégées au niveau national. Donc quand elles sont protégées au niveau national, c'est valable sur tout le territoire. Mais des fois, elles vont être protégées juste à l'échelle, en fait, régionale, voire départementale, voire protégées parce qu'elles sont dans une réserve naturelle ou un parc national. Donc il faut vraiment se dire qu'il y a plusieurs échelles et que la même plante ne va pas être protégée de partout. En tout cas, sa cueillette, si on parle par exemple d'une plante qui est cueillie et que tout le monde connaît comme le génépi, si je vais en Savoie, pas très loin, ou en Isère, ou en Suisse d'ailleurs, on n'est pas loin non plus, en Suisse, ça va être interdit. Ici, en Haute-Savoie, on n'a pas de réglementation qui interdit sa cueillette ou qui l'encadre, hors parc ou zone naturelle. Et après, pour plantes protégées, au niveau national... Il y a une liste du Conservatoire National Botanique Alpin, une liste des espèces protégées, une liste des espèces menacées, en fait, où on répertorie toutes ces plantes, où on peut vraiment retrouver tout ça. Voilà. Mais je ne peux pas lister toutes les espèces protégées qu'on pourrait avoir.
D'accord. Et vous savez où est-ce qu'on peut trouver cette liste des plantes protégées?
Bien sûr. Oui, bien sûr, on peut la trouver. Alors, sur Internet, tu peux trouver ça. Il y a la liste rouge de toutes les espèces qui sont menacées. Il y a vraiment un suivi, il faut se dire qu'il y a un suivi sur toutes ces espèces et qu'elles peuvent, en fait, au fil du temps, passer de menacées à non menacées, etc. Il faut bien se dire aussi que ce n'est pas parce qu'une espèce est menacée, par exemple, qu'elle est protégée. C'est, je dois avoir le chiffre. On a 23% des espèces qui ont été considérées comme menacées et 60% de celles-ci qui ne sont pas protégées. Donc on a quand même pas mal d'espèces menacées qui ne sont pas protégées. La protection, elle intervient dans un second temps. C'est pour ça que l'intérêt aussi d'avoir des parcs et des réserves naturelles, c'est que toutes ces espèces, d'ailleurs souvent, elles poussent dans ces milieux-là. Merci en tout cas de m'avoir fait venir ici et de m'avoir interrogé sur ce sujet.
Eh bien, merci à vous d'être venu et à bientôt.
Eh bien, Eden, nous te laissons présenter ton sujet qui peut aider bon nombre de nos éditeurs maintenant.
Aujourd'hui, je vais aborder un sujet qui nous touche tous, le stress. J'ai envie d'en parler car je suis sûre que ça pourra aider et que ça concerne beaucoup de personnes. J'ai une question pour vous. Est-ce que vous souffrez de stress quotidien ?
Oui, souvent.
Parfois.
Tout le temps.
Eh bien, vous n'êtes pas les seuls. En moyenne, 95% des Français souffrent aussi de stress quotidien. Et à votre avis, quelles sont les sources de stress principales ?
Le manque d'argent ?
Je sais pas trop, le collège ?
C'est ça. D'après une étude, voici le top 3 des sources de stress. En premier, le travail, la surcharge de travail ou les conditions de travail. En deuxième, les relations amicales ou entre collègues. Et troisièmement, les problèmes financiers, le manque d'argent ou les budgets limités.
Oui, c'est vrai que le travail me stresse beaucoup. Mais c'est quoi le stress, plus précisément ?
Alors déjà, il faut savoir qu'il n'y a pas un type de stress, mais deux, le stress aigu et le stress chronique. Le stress aigu, c'est un gros stress qui n'arrive qu'une seule fois, alors que le stress chronique est un petit stress qui se répète plusieurs fois.
Je ne savais pas qu'il y avait deux types de stress.
Mais je vois souvent des gens présenter leur maladie mentale liée au stress, anorexie, dépression ou anxiété. C'est vraiment dangereux ?
À long terme, certains peuvent mener à faire des actes dangereux contre soi-même. Il est donc recommandé de voir un professionnel de santé pour aider et ne pas croire tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux à propos de ces maladies. Mais il faut vérifier les sources. Prenons comme exemple l'anxiété. Selon la Haute Autorité de Santé, 15% des adultes de 18 à 65 ans présentent des troubles anxieux sévères sur une année donnée et 21% en présenteront au cours de leur vie.
21% au cours d'une vie ? C'est beaucoup pour une maladie mentale.
C'est les femmes ou les hommes qui sont le plus touchés par les troubles anxieux ?
Les troubles anxieux touchent davantage les femmes que les hommes, souvent plus perturbés au cours de leur adolescence, ce qui peut laisser des séquelles. Souvent, les symptômes de l'anxiété apparaissent pendant l'enfance ou l'adolescence. Une personne sur quatre environ reçoit un traitement contre ces troubles.
Mais y a-t-il aussi des impacts physiques ?
Oui, il y a des impacts physiques comme des maux de tête, des maux de ventre, des troubles du sommeil, de l'agitation et du manque d'appétit. Mais il y en a aussi des plus importants, car le stress peut chez certaines personnes augmenter la consommation d'alcool et de drogue, ce qui peut mener à des maladies comme des cancers, des comas ou encore de la dépression.
Jusqu'au coma ! C'est tellement impressionnant qu'un truc qui nous touche au quotidien soit aussi dangereux.
Inès a raison, ça peut être tellement dangereux, mais du coup, il y a une solution pour calmer le stress.
La solution miracle au stress, on l'a tous cherchée. Mais heureusement pour vous, le site de la Croix-Rouge du Canada a la réponse pour vous. Le yoga ou la sophrologie pour contrôler les émotions.
J'adore le yoga, ça me détend, j'en fais tout le temps.
Pensez à anticiper, apprenez à gérer votre temps, organisez votre travail. Ne jamais oublier de s'amuser, il faut un équilibre entre la vie professionnelle et les loisirs. Faites du sport, même si vous n'aimez peut-être pas ça, l'activité physique est bon contre le stress, même juste du jardinage ou du ménage compte comme du sport.
C'est vrai que dès que je stresse, je fais du sport et ça marche.
Merci pour ces infos. J'espère pouvoir contrôler mon stress maintenant.
Mais de rien, et n'oubliez pas, le stress est naturel. Il faut juste apprendre à le contrôler. Toutes les informations de cette chronique proviennent des sites suivants. Canada.ca ou .int, pronroy.com, care.fr. Merci à vous.
C'était vraiment très instructif. Grâce à toi, nous en savons bien plus sur ce sujet. À présent, nous allons écouter la musique de Zao de Sagazo, la Symphonie des éclairs.
Il fait toujours beau au-dessus des nuages, mais moi si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage, je traverserais les nuages comme le fait la lumière, j'écouterais sous la pluie la symphonie des éclairs. Dès sa plus tendre enfance, elle ne savait pas parler autrement qu'en criant tout bas. Pas faute d'essayer de les retenir, ses cris et ses larmes qui les faisaient tant. Il fait toujours beau au-dessus des nuages, mais moi si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage, je traverserais les nuages comme le fait la lumière, j'écouterais sous la pluie la symphonie des éclairs. En grandissant, rien ne s'est calmé. Petite tempête s'est trouvée. Des raisons de pleuvoir autant. Qui pourrait l'aimer, franchement? Personne n'aimerait se retrouver au cœur d'une tempête avouée. Il y a des raisons de pleurer. Elle a ses raisons, mais il fait toujours beau au-dessus des nuages. Mais moi, si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage. Je traverserais les nuages comme le fait la lumière. J'écouterais sous la pluie la symphonie des éclairs. S'échapper du vent et se retrouver dans le cœur des gens, celle-ci s'est dit. Nulle raison d'envier le soleil, je ferai danser les gens. Rythme de mes pleurs, la tourmente de mes chants viendra réchauffer les cœurs, réchauffer. Toujours beau au-dessus des nuages, mais moi je suis de ces oiseaux qui nous font danser sous l'orage. Je traverserai tous les nuages pour trouver la lumière en chantant sous la pluie la symphonie des éclairs.
Durant l'année, Enzo est allé questionner les habitants de la vallée sur les dangers que courent les animaux en montagne. Nous avons fait une compilation des réponses, écoutons-la.
Notre vallée regorge d'une faune étonnante qui définit notre environnement et que nous sommes toujours ravis de voir. Cependant, avec le tourisme croissant et l'accessibilité de la vallée, ces animaux commencent à être confrontés à des dangers qu'ils n'avaient jamais vus auparavant. J'ai parlé à des gens autour de Chamonix de ce qu'ils pensaient sur ces nouveaux dangers et de ce que nous pouvons faire pour les arrêter. Alors, quels sont ces dangers qui pèsent sur les animaux de la montagne? Il existe deux types de dangers, naturels et humains. Les dangers naturels comprennent les avalanches, les crues et les chutes de pierres. Ces dangers ne sont pas aussi nocifs, cependant ils deviennent plus fréquents en raison du changement climatique. Les dangers humains sont tout ce qui sont causés par les humains. Les dangers humains sont beaucoup plus graves car les animaux ne sont pas adaptés à ces dangers et sont rapidement devenus plus courant ces dernières années en raison de l'accessibilité de la montagne. Ces dangers incluent les déchets, la pollution de l'air, la destruction de l'habitat et les comportements incorrects lors de confrontations avec la faune. Voici ce que pensent les personnes à qui j'ai parlé.
Selon vous, quels sont les plus grands dangers qui pèsent sur les animaux de la montagne à Chamonix?
Alors du coup, je dirais l'extinction et les nuisances dues aux activités humaines.
Le plus grand danger, le loup qui va arriver, les avalanches, les dangers de la nature normaux.
Ah ben c'est les hommes.
À Chamonix et partout, je pense que c'est les activités humaines.
Alors quels sont les animaux concernés? Tous les animaux de la montagne peuvent être affectés par les dangers humains d'une manière ou d'autre. Il y a bien sûr les mammifiers comme les marmottes, les bouquetins et les chamois. Mais il y a aussi les insectes, quelques reptiles et des oiseaux comme le tétraslire, l'aigle royal et le giapète barbu. Voici ce que pensent les personnes à qui j'ai parlé.
Selon vous, quels sont les animaux concernés?
Les oiseaux et peut-être le loup et les autres mammifères.
Tous les animaux de la nature qu'il y a ici. Le bouquetin un peu moins pour le loup, un peu plus pour les avalanches. Le chamois beaucoup pour le loup, un peu moins pour les avalanches. Et puis tout le reste.
Ah il y a le tétra. Tous les oiseaux en fait. Tous les oiseaux. Tous un peu.
Mais je pense qu'il y a tout ce qui est cervidé, donc chamois, biche, cerf, tout ça. Et les galliformes, donc tétralyre, lagopène. Ça c'est vraiment tout ce que nous on voit en tant que skieurs. Après, forcément, il y a aussi les animaux volants qu'on dérange sûrement un petit peu moins en tant que skieur, mais beaucoup en tant que parapentiste, par exemple. Et après, tous les autres, moi, les insectes, tout ça, je les connais pas, donc je peux pas les citer.
Que pouvons-nous tous faire pour contribuer à mettre fin à ces dangers ? D'une manière ou d'autre, on est tous connectés aux montagnes. Alors, on est tous responsables à les protéger. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire pour y parvenir, notamment les créations des réserves comme les aiguilles rouges, la construction d'infrastructures éloignées des habitats des animaux pour arrêter la destruction de leurs habitats, l'éducation des touristes sur la manière de se comporter en montagne ou la sensibilisation à la manière d'être responsable dans l'environnement. Voici ce que pensent les personnes à qui j'ai parlé.
Lorsque vous partez en montagne, quelles précautions prenez-vous pour ne laisser aucune trace ?
Toujours un sac plastique pour bien garder mes déchets et récupérer ceux des autres aussi.
Bah, on jette rien dehors, on met tout dans le sac à dos.
Ouais, bah à part récupérer tous mes déchets, je fais pas grand-chose de plus. Hein.
Alors aucune trace, ça dépend comment t'orientes ta question, mais moi j'essaye de... Voilà, de ne pas laisser de déchets derrière moi. Après, ça arrive à tout le monde de laisser envoler quelque chose. Mais voilà, moi, c'est surtout ça. Et puis pas de détériorer ce qui n'a pas besoin d'être détérioré, quoi.
Lorsqu'on part en montagne, quelles précautions devrait-on prendre pour ne laisser aucune trace ? Quand on est dans les montagnes, il y a beaucoup de choses responsables qu'on peut faire. Par exemple, quand on fait les sports de montagne comme le ski hors piste, le randonnée ou la randonnée en raquette, il ne faut pas multiplier les traces dans la forêt, ne pas quitter les zones marquées et garder les chiens sur un laisse. Il faut aussi garder la distance entre vous et l'animal et ne pas laisser des traces dans l'environnement comme les déchets qui peuvent poser un risque aux animaux. Enfin, il est également important de ne pas faire de bruit aux eaux ou autres perturbations lorsque vous rencontrez des animaux afin de ne pas les effrayer et plutôt de rester silencieux. Voici ce que pensent les personnes à qui j'ai parlé.
Selon vous, que pouvons-nous tous faire pour contribuer à mettre fin à ces dangers ?
Eh ben, se munir d'un sac plastique et bien rester sur les chemins pour pas détériorer le site.
Ben, les dangers naturels, malheureusement, à notre niveau, pas grand-chose. Faut que l'État y prenne en charge le plus dur. Après, chacun prendre un sac poubelle dans le sac et truc qui est logique dans la région.
Eh ben, juste faire attention, c'est tout.
Je pense que c'est une organisation globale et collective qu'il faut essayer d'avoir. Et la montagne, elle est un peu victime de son succès. Il y a de plus en plus de demandes de pratiquants. Après, voilà, les réponses, moi, je les ai pas trop. Mais voilà, est-ce qu'il y a des zones qui doivent devenir interdites à l'homme ? Est-ce qu'il y a des zones qui doivent être réglementées ? Est-ce que les activités outdoor doivent être concentrés à uniquement des endroits pour en sauvegarder d'autres. C'est un peu toutes ces questions-là qu'il faut mettre sur la table et répondre.
Pour conclure, les dangers humains affectent presque toute la faune sauvage de nos vallées, mais nous pouvons tous prendre les mesures pour les ralentir, voire les empêcher et assurer la sécurité de nos incroyables animaux.
Merci beaucoup Enzo, c'était très intéressant d'avoir l'avis des personnes qui nous entourent sur un sujet aussi important. Et maintenant, on vous passe secret de Louane.
Tu sais, je suis pas prête à te voir grandir. J'ai peur de ce que tu vas devenir. Parce que je sais ce que c'est d'avoir mal. Et je pourrais pas t'empêcher d'avoir mal. Tu sais, je veux que tu sois heureuse. Et je veux te voir tomber amoureuse. Et même si je veux te protéger, parfois je vais devoir te voir tomber. Et si les filles te semblent fragiles, sache que t'as en toi une force qui se déploie. Comme toutes les filles, ce sera pas facile, mais moi je crois en toi. Je vais te
confie mon plus gros secret. J'ai toujours eu un peu de mal à m'aimer. Et j'apprends tous les jours à devenir douce. Je crois que j'ai pas fait le tour, j'attends que ça pousse. Je vais te confier mon plus gros secret. J'ai toujours eu un peu de mal à m'aimer. Maintenant ce que j'espère de tout mon cœur, c'est que toi tu feras pas la même erreur. Je sais que c'est pas simple de croiser les miroirs, que tu vas parfois pleurer dans le noir. Je l'ai vécu mille fois avant toi, c'est encore à l'intérieur de moi. Et si c'est dur de pas regarder les autres sans te sentir oublié, il faut que tu saches que je te comprends, que grandir parfois ça prend du temps. Et si les filles te semblent fragiles, sache que t'as en toi une force qui se déploie. Comme toutes les filles, ce sera pas facile, mais moi je crois en toi. Je vais te confier mon plus gros secret. J'ai toujours eu un peu de mal à m'aimer, et j'apprends tous les jours à devenir douce. Je crois que j'ai pas fait le tour, j'attends que ça pousse. Je vais te confier mon plus gros secret. J'ai toujours eu un peu de mal à m'aimer. Maintenant ce que j'espère de tout mon cœur, c'est que toi tu feras pas la même erreur. Je vais te confier mon plus gros secret. J'ai toujours eu un peu de mal à m'aimer.
Tout de suite, Louise va nous parler d'un cas qui touche de plus en plus de monde pour plusieurs raisons. Je lui laisse la parole afin qu'elle nous explique.
Savez-vous que 5% de la population mondiale serait végétarienne, végétalienne ou végane ? Cela représenterait pas moins de 375 millions de personnes. Aujourd'hui, je vais vous parler du végétarisme, du végétalisme et du véganisme. Ça me tient à cœur d'en parler car je suis végétarienne et que je souhaite aider les personnes qui veulent devenir végétariens, végétaliens ou véganes à avoir toutes les infos et le faire de la meilleure manière. Cette chronique me permet aussi de sensibiliser les gens à l'exploitation animale et les dégâts qu'elle cause sur la planète en lien avec le changement climatique qui inquiète de plus en plus.
On voit de plus en plus de gens en parler sur les réseaux sociaux, mais j'ai du mal à comprendre quelle est la différence entre les trois régimes.
Oui, effectivement, pas mal de gens ne savent pas quel mot utiliser pour chaque régime, et ils se trompent souvent. Les végétariens ne mangent aucune chair animale, c'est-à-dire pas de viande rouge, pas de volaille. Néanmoins, certains mangent du poisson. Les végétaliens ne mangent également aucune chair animale, même pas du poisson. Ils excluent aussi de leur régime tout produit alimentaire issu de l'exploitation animale, comme le lait, le miel ou encore les œufs. Le véganisme, contrairement aux autres, ne se résume pas à un régime alimentaire. Les véganes adoptent une alimentation végétalienne et ils excluent de leur mode de vie tout produit de l'exploitation animale. Par exemple, ils ne portent ni cuir ni fourrure. Ils n'achètent aucun cosmétique testé sur les animaux.
Mais du coup, il y a des alternatives pour remplacer la viande et le lait ?
Oui, évidemment. Pour remplacer les protéines animales, il y a les lentilles, les haricots, les pois chiches, les fèves de soja, les céréales ou encore le riz, qu'on peut trouver dans tous les magasins. Pour les végétariens, il y a aussi du poisson ou des œufs. Il existe des laits végétaux à la noisette, à l'amande, au soja ou même au riz. On peut également trouver plein d'autres alternatives. Je vous conseille d'être accompagné par une nutritionniste pour éviter tout problème.
Ah, super! Par contre, je crois que pas mal de gens se demandent encore pourquoi arrêter la viande, ou en tout cas essayer de limiter sa consommation.
En fait, il y a plein de bienfaits et d'avantages à essayer de manger moins de viande. Tout d'abord, il est mauvais pour la santé de manger trop de viande rouge. Dans l'idéal, il faudrait en manger maximum 3 portions par semaine. Une portion, c'est environ 85 grammes. Il est aussi préférable de manger de la volaille. Ne plus manger de viande, ou au moins réduire sa consommation, peut prévenir certaines maladies. Et oui, selon l'OMS, une forte consommation de viande augmente en effet les risques de maladies cardiovasculaires, de diabète, d'obésité et même de cancer. En plus d'être meilleur pour la santé, ne plus manger de viande ou en manger moins permet d'agir pour la planète. il faut entre 550 et 700 litres d'eau pour produire 1 kg de viande de bœuf. Aussi, les produits d'origine animale sont responsables de plus d'émissions de gaz à effet de serre que n'importe quelle autre source de nourriture.
C'est impressionnant! Et j'imagine qu'il faut beaucoup d'espace pour garder tous ces animaux.
Effectivement, 33% de la surface de la Terre est occupée par ces productions. Et 2/3 des surfaces agricoles sont destinées à l'élevage ou à la production d'aliments, pour le bétail. On estime aussi que 80% de la déforestation est causée par l'agriculture, principalement les exploitations de soja qui servent à nourrir le bétail. C'est inquiétant quand on sait que près de 800 millions d'humains et un enfant sur trois souffrent de malnutrition. Si les pays développés comme la France, par exemple, divisaient leur consommation de viande par deux, cela permettrait de sauver 2,2 millions d'enfants de la famine. J'ai trouvé les informations de cette chronique sur mangerbouger.fr, j'aimelefromage.ch et le site de l'OMS. J'espère que j'aurai pu vous aider et que j'aurai répondu à toutes vos questions.
C'était vraiment très intéressant. À présent, nous allons écouter quel type de vibe d'Opinard.
Chérie, dis-moi c'est quel type de vibe que tu veux. Je vois que t'es du genre posé, champagne rosé, tenue osée. Tu veux pas te poser, fais pas de faux espoirs. Moi je suis venu pour te tirer les cheveux. Et juste après on se mate le film que tu veux. Chérie, c'est quel type de vibe que tu veux. Yeah yeah. Chérie, 5 étoiles et l'hôtel. Y'a à peu près tous des garçons, des cocktails. Dès que t'es OP, appelle-moi sur mon tel. Juste pour la soirée, je veux que tu sois ma Gisèle. Si t'as les pouvoirs, je veux que tu sois magicienne. Et que tu mettes la vibe. Bébé, que tu mettes la vibe. Mais bébé, c'est quel type de vibe? Tu mets tellement de temps à te décider. Tu sais, j'ai eu le temps de me faire des idées. Mais ça, c'est encore notre type de vibe. Ça dirait de venir surfer sur ma vague. Là où personne pourra nous déranger. Là où personne nous dira de changer. Je pense que t'aimes bien ce type de vibe. Chérie, dis-moi, c'est quel type de vibe que tu veux? Je vois que t'es du genre posé, champagne rosé, tenue osée. Tu veux pas te poser, fais pas de faux espoirs. Moi je suis venu pour te tirer les cheveux. Et juste après on se mate le film que tu veux. Chérie, c'est quel type de vibe que tu veux. Yeah yeah. Chérie, dis-moi c'est quel type de vibe que tu veux. Je vois que t'es du genre posé, champagne rosé, tenue osée. Tu veux pas te poser, fais pas de faux espoirs. Moi je suis venu pour te tirer les cheveux. Et juste après on se mate le film que tu veux. Chérie, c'est quel type de vibe que tu veux. Yeah yeah.
À présent, nous allons laisser la parole à Inès qui va nous présenter son sujet sur les Ouïghours.
Qui pense à regarder la provenance de ces vêtements? Savez-vous vraiment qui est derrière tout cela? Aujourd'hui, je vais vous apporter des détails sur un sujet que je voudrais dénoncer. En 2024, on ne devrait plus importer autant de vêtements de Chine. Je vais vous expliquer pourquoi, en vous parlant notamment de l'exploitation des Ouïghours en Chine. Les Ouïghours sont un peuple nomade venant de Turquie assez pauvre. La plupart sont des musulmans sunnites vivant aujourd'hui en Asie centrale et en Chine. Ils se font exploiter par de grandes marques, je vous dirai après, dans d'horribles conditions. Ils travaillent 9h à 21h sans arrêt, 6 jours par semaine. Autrement dit, 72 heures par semaine pour un maximum de 250 euros par mois. Certains touchent encore moins puisque le salaire minimum est de 95 euros par mois.
C'est un petit salaire, effectivement. Peux-tu nous dire depuis quand sont-ils exploités pour pouvoir nous donner un ordre d'idée de depuis quand ils vivent ce calvaire?
Je n'ai pas trouvé de date exacte, mais je peux vous dire que les choses sont ainsi depuis le siècle dernier. Il y a eu beaucoup de révoltes contre l'exploitation, comme en 2014 à la gare de Kunming, une grande ville chinoise. On a dénombré 31 morts et 143 blessés, d'après Radio France.
Mais du coup, peux-tu nous dire quelles sont les marques qui les exploitent?
Le travail forcé des Ouïghours continue, y compris au sein d'entreprises chinoises vendant une partie de leur production textile à de grandes marques en Europe. C'est ce que dénonce un rapport commandé par le groupe socialiste du Parlement européen, publié le mercredi 6 décembre 2023. Ce qui veut dire que la plupart de vos objets où il est écrit « Made in China » est le fruit de l'exploitation des Ouïghours. C'est donc plus de 40 marques telles que Acer, Adidas, Amazon, Apple, Shein, etc. qui profitent de l'exploitation que l'on peut apparenter à de l'esclavage moderne. comme nous le dit le site Adaptation Magazine.
Pourrais-tu nous faire une courte conclusion sur ce sujet afin de clore cette chronique ?
Je pense que cette exploitation devrait s'arrêter, car en plus d'être horrible pour les Ouïghours, les prix étant très bas sur les produits en provenance de Chine, les gens les favorisent pour pouvoir payer moins cher et donc délaissent les plus petits commerçants locaux qui, eux, vont devoir fermer. En plus de ça, le marché international a un impact écologique énorme. Les produits traversant la terre entière emballés dans des milliards de cartons. La pollution et les déchets générés sont considérables. Pour réaliser cette chronique, j'ai utilisé les sites Radio France, Ouest France et Wikipédia, mais je me suis aussi servi de mes connaissances car c'est un sujet qui m'a toujours intéressée. Et bien voilà, j'ai fini. Maintenant, nous allons passer Tout combat de Arcadiane.
Allez, je ne laisserai pas tes bras baisser plus longtemps. Allez, je ne lâcherai pas, tu m'entends. Ça prendra le temps que ça prendra. Et ton combat, tu m'entends. C'est mon combat.
Le bonheur s'efface quand l'amour se casse. Quand la vie ne te sourit plus. Les passants que tu vois sont vivants. Pendant que toi, tu leur cries que tu n'en peux plus. Plus rien ne compense ton éternelle absence. Quand tu ne vois plus que des murs. Plus de soleil, d'orage, de fou rire ni de rage. Quand tu ne vois plus le futur.
Il suffirait qu'une main touche la tienne. Que ton regard vers demain le comprenne.
Allez, je ne laisserai pas tes bras baisser plus longtemps. Allez, je ne lâcherai pas, tu m'entends. Ça prendra le temps que ça prendra.
Et ton combat, tu m'entends. C'est mon combat.
Allez, je ne laisserai pas tes bras baisser plus longtemps. Allez, je ne lâcherai pas, tu m'entends. Ça prendra le temps que ça prendra.
Et ton combat, tu m'entends.
Avant le premier signe, avant que tu t'abîmes, avant que tu ne perdes pied. On mettra tout en œuvre, on ira vers ton bonheur, qu'importe ce que ça doit coûter. Je t'emmène dans les coins où ça chante et ça résonne. Et personne, ne juge personne, on te reconstruira une vie. Pas à pas, tu guériras.
Il suffirait que ta main touche la mienne. Que ton regard vers demain le comprenne.
Allez, je ne laisserai pas tes bras baisser plus longtemps. Allez, je ne lâcherai pas, tu m'entends. Ça prendra le temps que ça prendra.
Et ton combat, tu m'entends. C'est mon combat.
Allez, je ne laisserai pas tes bras baisser plus longtemps. Allez, je ne lâcherai pas, tu m'entends. Baisser plus longtemps. Allez, je ne lâcherai pas, tu m'entends. Ça prendra le temps que ça prendra. Et ton combat, tu m'entends.
C'est mon combat.
Allez, je ne laisserai pas tes bras baisser plus longtemps. Allez, je ne lâcherai pas, tu m'entends. Ça prendra le temps que ça prendra. Et ton combat, tu m'entends. C'est mon combat.
Pour finir, Eden et Louise vous ont partagé un superbe reportage sur le retour des loups afin de conclure notre émission.
Aujourd'hui, nous allons vous parler d'une cause qui nous tient à cœur, les loups. Plus précisément, le retour des loups dans la vallée du Mont-Blanc. Nous commencerons par une interview de Monsieur Jean-Claude Louis, le référent loup de la LPO, puis nous enchaînerons avec un débat sur l'utilité et les possibles dangers des loups dans la vallée.
Bonjour, aujourd'hui nous accueillons Jean-Claude Louis, référent loup de la LPO pour une interview sur le retour des loups dans la vallée du Mont-Blanc. Savez-vous quand est-ce que les loups sont revenus dans la vallée ?
On sait que les premières attaques ont eu lieu en 2017 dans la vallée. Ça a commencé, les premières attaques, c'était à Saint-Gervais, donc en 2017. Et puis après, il y en a eu en 2018 aux Ouches. Mais il n'est pas impossible que le loup soit venu. Donc c'est là où, quand il y a eu les premières attaques, le loup était déjà installé dans la vallée. Mais il n'est pas impossible qu'il y ait des loups de passage avant qui soient passés complètement inaperçus, parce que le loup fait beaucoup de kilomètres dans une journée. Et il y a des loups qui cherchent un territoire et qui peuvent faire des kilomètres sans se faire repérer. Officiellement, c'est en 2017 que les premiers ont été repérés dans la vallée. Ouais.
Où est-ce que les loups sont le plus présents dans la vallée ?
Ben, il y en a un peu partout dans la vallée. Hein. Il y a une meute qui est sur la Suisse et puis qui déborde un petit peu sur Saint-Valorcine. Il y en a une autre qui est sur Chamonix même. Il y en a une autre qui est sur Passy, Servoz et les Ouches. Et puis il y en a encore une sur les Contamines Saint-Gervais et qui déborde un peu sur les Ouches. Donc on a quatre meutes dans le territoire de la vallée.
Comment les loups sont revenus ? Était-ce une réintroduction naturelle ou artificielle ?
Alors c'est pas une réintroduction. C'est ce que les détracteurs du loup essayent de dire que c'est une réintroduction, parce que quand on réintroduit un animal, c'est du fait de l'homme, donc on peut l'éliminer plus facilement, puisque ça peut se discuter, c'est-à-dire c'est l'homme qui l'a réintroduit. Et là, c'est pas du tout le cas. Le loup est revenu naturellement depuis l'Italie. Les Italiens avaient prévenu les Français que les loups étaient à la frontière italienne et qu'un jour ou l'autre, ils allaient arriver en France. Et c'est ce qui s'est passé en 1992 dans le Mercantour où les loups sont revenus. Et comment on peut savoir qu'il n'y a pas eu de réintroduction ou de lâcher de loups, comme on l'a dit au départ ? Bien maintenant, on fait des analyses génétiques et on arrive à savoir de quel individu il s'agit. Et il se trouve que la lignée italienne a un ADN bien différent des autres qui permet de le distinguer.
Pensez-vous que le retour du loup a un impact positif ou négatif ?
Il a les deux impacts. Il a un impact négatif, et c'est, on en parle tout le temps, c'est les dommages qu'il fait au troupeau. Et ça, bon, ça fait la une des journaux. On ne parle jamais des bienfaits du loup. Et en fait, il a un rôle primordial, et surtout dans la vallée, sur la biodiversité et notamment sur la forêt. Il faut savoir que dans la vallée, on a une surpopulation de cerfs. Au dernier comptage, là, j'ai vu Michel Jourdil de l'AICA, donc des chasseurs, qui m'a dit qu'ils avaient quoi, 600 cerfs entre Chamonix et les Ouches. Donc c'est une population à prendre des comptages de 600 cerfs. On peut dire qu'il y en a entre 30 et 50% de plus que ce qu'ils ont compté. Et en fait, il y a une surpopulation. Et moi qui étais ancien forestier, ben, je vois en forêt ce qui se passe, c'est-à-dire que c'est pas les forestiers qui choisissent la forêt qu'on aura demain, ce sont les cerfs qui sont en train de, en sélectionnant les espèces, qui sont en train de façonner la forêt qu'on aura demain.
Savez-vous comment se passe l'indemnisation des agriculteurs lorsqu'ils sont attaqués par des loups ?
Oui, alors, c'est très compliqué l'indemnisation des éleveurs parce que les tarifs, ça varie suivant l'âge de l'animal qui est tué, par exemple sur les ovins, les moutons. Ça dépend si c'est un jeune, si c'est un adulte, si c'est un mâle ou une femelle, si c'est une brebis qui fait du lait ou si c'est une brebis qui est élevée pour faire des agneaux et faire de la viande. Ça dépend si c'est du lait, s'il est transformé par l'agriculteur et s'il est vendu en circuit court, s'il est bio. Enfin, il y a des tas de critères. Ça représente à peu près, il y a trois feuilles de tarifs. Et pour donner un ordre d'idée, sur les ovins, ça va de 140 € à 950 € pour les brebis qui font du lait bio et vendu en cirque. Et donc pour chaque catégorie d'animal, il y a des tarifs pour les caprins, par exemple les chèvres, ça va de 50 à 824 €. C'est des tarifs qui sont très très variables suivant les animaux.
Selon vous, quelle est la solution pour régler le problème entre les loups et les agriculteurs ? Mais tout en préservant le loup.
La solution, c'est de protéger son troupeau. Il y a trois types de protection qui marchent bien et qu'il faut mettre ensemble. C'est la protection par des filets électriques, des chiens de protection et puis un gardiennage avec un berger. Alors pour ces trois types de protection, les agriculteurs reçoivent une aide. Ils sont aidés à 80%, sauf dans les réserves naturelles où là, ils sont aidés à 100%. Et c'est ce gardiennage et puis ces mesures de protection, elles sont efficaces quand elles sont bien mises en place. Moi, je le vois en allant voir troupeaux, voir comment ils sont protégés. Parce que pour lui, c'est plus facile d'attraper et beaucoup moins risqué un mouton, par exemple, que de courser un cerf ou un sanglier.
Comment apprendre à vivre avec les loups ?
C'est assez facile de vivre avec les loups. Alors ça a quand même des répercussions, par exemple sur les rangs d'honneur. Dans pratiquement tous les troupeaux, il y a des chiens de protection. Et il y a des randonneurs qui ont peur des chiens de protection. Et donc il faut éduquer les gens au comportement du chien de protection. Et donc c'est surtout les éleveurs qui ont besoin de s'adapter à la présence du loup, parce que pour la plupart des gens, ça n'a pas d'incidence. Mais pour les éleveurs, c'est une grosse incidence. Ça a complètement bouleversé leur système de pastoralisme, parce que, par exemple, si on prend les élevages de moutons pour la viande, Avant la présence du loup, vous pouviez mettre vos moutons mi-juin en alpage et puis venir de temps en temps surveiller. Et puis vous les retirez fin septembre, début octobre et sans s'en occuper plus que ça, parce que ça permettait de faire les foins en bas dans la vallée. Et maintenant, c'est plus possible, ça. Il faut qu'il y ait un gardien qui ait des parcs. Et donc, ça a complètement changé et bouleversé la vie des éleveurs.
Pensez-vous que les loups seront amenés à disparaître à nouveau à Chamonix ?
C'est la grande question. Normalement, ils n'ont aucune raison de disparaître parce que il y a suffisamment de nourriture, il y a une surpopulation de cerfs, il y a beaucoup de sangliers aussi, parce que le loup s'attaque aussi aux sangliers, surtout aux jeunes sangliers, les marcassins. Et on le voit un peu partout. Hein. Si vous vous promenez en forêt, vous voyez dans des alpages, on voit des alpages remués par la présence des sangliers. Le loup, il a suffisamment à manger dans la vallée. Par contre, si on voit ce qui s'est passé en Suisse, où ils essayent d'éliminer un maximum de loups en les tirant, et si ça arrive chez nous, ça peut faire la même chose. Et en ce moment, un projet de loi, enfin un arrêté, pour augmenter et faciliter le tir des loups. Donc avant, c'était une espèce qui était strictement protégée. Là, on veut la faire passer dans les espèces simplement protégées, donc qui peuvent être chassées avec des dérogations. Là, pour l'instant, on peut tirer que les loups qui attaquent les troupeaux. C'est ce qu'on appelle des tirs de défense. Avec les tirs de prélèvement, ça peut être fait lors d'une battue sans qu'il y ait un rapport que le loup est attaqué. Il peut être, dès qu'on voit un loup, on peut le droit le tirer. Tout dépend comment cet arrêté va être appliqué.
Sinon, y a-t-il une solution déjà existante pour garder l'équilibre du loup dans la biodiversité de la montagne et éviter la chasse?
Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la protection des troupeaux qui est efficace et qui permettra de maintenir cet équilibre. Parce que le tir du loup, c'est pas une solution. C'est un peu comme quand un loup attaque un troupeau, pour l'éleveur, c'est un peu comme si vous subissiez un cambriolage. Il faut mettre des mesures de protection. S'il tue un loup, il va le soulager par contre le moment. D'un moment, ils savent que le loup va être remplacé dans l'année. Il y aura un autre loup qui va le remplacer. Ça sera sans fin. Donc la seule solution, qui sont des protections efficaces, arrive petit à petit. Dans la vallée, ça a beaucoup changé. On voit en quelques années, il y avait très peu de protection, ou pas du tout même. Et là, maintenant, une protection s'améliore petit à petit. Et bon, c'est pas encore parfait parce qu'il y a encore des troupeaux qui subissent des attaques. Mais il y en a d'autres qui ont atteint presque la perfection, c'est-à-dire que les mesures sont efficaces. Et là, ceux-là sont très peu attaqués pour l'instant.
Maintenant, nous allons accueillir une personne qui souhaite rester anonyme afin qu'elle puisse nous apporter ses arguments et son opinion à propos des loups. Nous allons ensuite apporter nos propres arguments afin de débattre.
Bonjour, je viens débattre aujourd'hui au sujet des loups car je pense que ce sont des animaux agressifs et sauvages.
Les loups sont effectivement des animaux sauvages et non domestiques, tout comme les biches ou encore les lapins. Beaucoup de gens pensent qu'ils peuvent se faire attaquer par un loup, mais en réalité, les attaques de loups envers les humains sont très rares. Aussi, un loup ne devient agressif seulement lorsque lui ou ses louveteaux sont menacés. Donc rassurez-vous, vous pouvez vous promener en forêt sans courir de risque. Aussi, vous en courez plus lorsqu'il y a des chasseurs que des loups.
D'accord, mais aussi, ils mangent tous les animaux de la forêt.
Effectivement, les loups sont des prédateurs carnivores et donc chassent des animaux afin de se nourrir. C'est un procédé et un instinct naturel chez les carnivores. Ils mangent par exemple des souris, des marmottes, des cerfs ou encore des chevreuils. Par contre, il ne faut pas exagérer en disant qu'ils mangent tous les animaux de la forêt, car c'est comme si on disait que tous les lions mangeaient tous les animaux de la savane, ce qui n'est pas le cas.
Oui, mais pour les animaux de la ferme, comme les moutons ou les vaches, il y a beaucoup de loups qui les attaquent.
Oui, évidemment, les loups sont comme les humains. Quand ils ont faim, ils essayent de trouver la solution la plus simple et la plus rapide pour manger. Ensuite, il faudrait que les bêtes soient mieux protégées. Ainsi, on éviterait de nombreuses attaques de loups sur le bétail.
D'accord, je comprends mieux. Mais je continue quand même de croire qu'ils sont inutiles dans la vallée. Enfin, quoi ? On a déjà assez de prédateurs dans la forêt.
Détrompe-toi. Comme nous l'a expliqué M. Jean-Claude Louis dans l'interview, les loups sont très importants car ils permettent de réguler les animaux en forêt. Car sinon, on serait en surpopulation de cerfs ou autres proies. Et non, il n'y a pas beaucoup de prédateurs. Nous en sommes presque en manque dans la vallée. D'ailleurs, tous les prédateurs n'ont pas la même alimentation. Ils ont chacun des proies différentes.
Je vois. Donc, les loups ne sont pas un problème si on protège les bêtes. Grâce à vous, j'ai une meilleure image des loups. Merci beaucoup.
Bien sûr. De rien, nous vous remercions pour ce débat.
Maintenant, notre émission est finie. Merci de nous avoir écoutés.
Un autre groupe de notre collège va venir vous présenter une émission à leur tour sur le 19e siècle à Chamonix. Mais nous les laissons vous en dire plus. Avant cela, nous allons vous passer Here Comes the Sun des Beatles. Au revoir !